Groupe Clepsydre, il y a des collègues de Clepsydre qui sont dans la salle. Cette association regroupe toutes les psychologues, presque toutes les psychologues des réanimations néonatales et pédiatriques de Paris et d'Île-de-France. Et puis Psynem, que vous connaissez peut-être, le site du professeur Bernard Gols, qui m'est d'une grande utilité et dans lequel vous trouverez quelques vidéos ou des textes qui peuvent vous intéresser sur différents sujets. Alors, prendre soin des soignants dans une clinique à haut risque. Alors, pourquoi ? Alors, en fait, moi, je n'interviens dans ce service, qui a 32 lits, uniquement auprès des soignants de ce service. Pourquoi ? C'est un service qui accueille des enfants du nouveau-né, mais pas du nouveau-né, du bébé jusqu'à l'adolescent. Donc, c'est un petit peu différent des réanimations néonatales. Et comme c'est un équerre, on reçoit des enfants extrêmement malades avec des pathologies très complexes et nous sommes amenés souvent à faire des réunions éthiques et à prendre des décisions éthiques. Le taux de décès dans ce service est important, il est de 10 à 15% par an. Par exemple, en 2014, sur 420 entrées en réanimation, il y a eu 42 décès. Ce qui, suivant les moments, peut représenter un ou deux décès par semaine quand il y a des séries. Donc c'est extrêmement lourd. C'est la raison pour laquelle, après avoir travaillé pendant 15 ans, comme toutes mes collègues psychologues auprès des familles, des soignants, des enfants, j'ai proposé il y a une dizaine d'années, grâce à l'aide de mes deux collègues psychologues, Céline Ricignolo et Olga Faustini, qui s'occupent des familles, qui interviennent auprès des familles et des enfants, de n'intervenir qu'auprès des soignants de cette équipe. Donc, évidemment, une des conditions, c'est un partage et une entente totale avec les collègues psychologues. En fait, mon temps est assez peu important, c'est un quart du temps à l'intérieur du service, mais sans aucun contact, ni avec les familles, ni avec les enfants. Ce qui me laisse une liberté psychique importante, hein. Je suis là uniquement pour les soignants, et de leur côté, c'est la même chose. Ils ne prennent pas le temps des familles, ni des enfants, quand ils font appel à moi, ou quand ils me font un petit signe dans les couloirs. Alors en fait, pratiquement... En fait, c'est un retour d'expérience que je voudrais vous faire. Donc, je vais vous dire un petit peu ce que j'essaye de mettre en place. J'accueille individuellement chaque nouveau soignant du service. C'est une prise de contact qui peut durer de 5 à 10 minutes, qui est rapide, mais qui permet des liens plus faciles après. Ils me connaissent, je les ai aperçus, j'essaye de mémoriser leurs prénoms, ce qui est très difficile. Bref, il y a un petit contact qui s'établit et après, c'est beaucoup plus facile de se rencontrer. J'accueille spécifiquement en groupe les internes chaque semestre. Et je fais en général un bilan fin de stage pour essayer d'améliorer notre accueil, parce que les internes aussi, quand ils arrivent dans ce service-là, sont en grande souffrance. C'est beau être des 7e et des 8e semestres, le choc est un peu rude. De même les externes que j'accueille en groupe. Bien sûr, vous imaginez bien, c'est un travail essentiellement interstitiel, informel, un travail de couloir, comme Catherine, mon bureau qui est à l'extérieur, j'y suis jamais, ou presque jamais, je suis à l'intérieur du service. Alors, j'ai mis en place, grâce à l'aide de tout le service, parce que ce que je vous dis là, ce n'est pas à moi, c'est l'ensemble du service, les chefs de service successifs, Philippe Hubert et maintenant Sylvain Renolo, les cadres du service et les seniors du service qui sont les mêmes depuis de nombreuses années et avec lesquels je travaille étroitement. Donc, grâce à eux, je peux faire une heure de pause, P-O-S-E. On vient se poser, on vient déposer quelque chose, peut-être se reposer, mais je ne crois pas. Mais en tout cas, voilà, c'est pas pour ne rien faire. Dans cette heure de pause, qui a lieu tous les lundis, alors c'est presque sans exception, ce qui est quand même assez étonnant dans une réanimation, mais en fait, ça dépend des fois. Quelquefois, il y a 5 personnes, mais ça ne fait rien. Il y a quand même un moment où on se retrouve et on peut échanger. Et quelquefois, on est une trentaine. Bon, ça, c'est une toute petite heure de pause, il y a quelques années. Au cours de cette heure de pause, on aborde tous les sujets. Il n'y a pas forcément de thème, c'est ouvert à tout le monde. Il s'agit plus de mettre les choses en place. On reprend des situations et quelquefois, quand il y a des petits groupes comme celui que vous voyez sur l'image, il peut arriver de faire des petits jeux de rôle, ou plus exactement des mises en situation. C'est un bien grand mot, jeu de rôle. On reprend une situation qui a été compliquée pour les soignants et on la joue, bien sûr, un soignant joue le rôle de parent ou d'un collègue. Alors j'aurais voulu vous parler aussi des choses un peu lourdes et un peu difficiles. Et je voulais vous lire ce que j'ai écrit après une heure de pause C'était en septembre 2014. Heure de pause très compliquée, très difficile, qui, bon, j'ai eu envie d'écrire après. Et puis après, je me suis dit que j'allais vous communiquer ce que j'avais écrit, parce que ça donne quand même un peu une image de ce qu'on peut vivre. Lundi après-midi de septembre 2014, heure de pause. C'est un temps habituellement calme, serein, même si des émotions fortes y sont fréquemment évoquées. Il s'agit d'un temps ouvert à tous, informel sur le contenu, mais respectant le cadre de l'heure, à peu près, c'est pas facile en réa, et surtout de la confidentialité. Mais ce lundi n'est pas comme les autres. Le week-end a été particulièrement difficile, l'équipe ayant dû accompagner deux familles venant de perdre chacune un enfant au cours d'une noyade et une autre famille dont l'état de santé de l'enfant venait de se dégrader brutalement. Il allait mourir dans les heures prochaines. Il a donc fallu installer les trois familles dans des lieux calmes, protégés, organiser des réunions où l'on doit annoncer l'horreur. Médecins et infirmières présents ensemble pour dire l'arrêt des traitements et de la réanimation. Il arrive dans ce service des moments plus extrêmes encore que les autres, où il faut passer d'une mort à l'autre, accompagner, expliquer l'inexplicable, entourer dans le silence, s'ajuster au plus près de ce qu'attend l'autre pour le soutenir. C'est une attitude d'une exigence extrême qui sollicite la véracité du sujet. Et de plus, il faut contenir sa propre tristesse, ne pas la laisser déborder, ne pas fuir. Ce lundi-là, c'est le lendemain de ce dimanche-là, et c'est la même équipe qui travaille le samedi, le dimanche et le lundi. La cadre du service me demande de faire l'heure de pause sur ce qui s'est passé la veille. J'accepte immédiatement, bien sûr, même si je sais que la situation est sans doute encore trop à vif pour être reprise efficacement. Mais je sais aussi que les soignants ont besoin de se retrouver tous ensemble. C'est bien ce qui se passe, puisque les uns après les autres, ils pénètrent dans la grande salle de staff. Petit à petit, celle-ci se remplit, les uns autour de la table, les autres sur les bancs, sur les tables, partout. Il y a bientôt plus un espace de libre, nous sommes 27. Et le nouveau chef de service, arrivé il y a une semaine, est parmi nous. Mon rôle est difficile. Comment permettre la circulation de la parole dans un grand groupe, avec la présence hiérarchique de notre nouveau chef de service, et quelques heures seulement après les situations éprouvantes. L'échange est difficile. Le climat, plus triste que lourd, mais les silences sont longs. J'ai vraiment l'impression de tirer une barque trop lourde pour moi. Pourtant, une infirmière, présente hier, arrive à dire que le plus difficile avait été les remerciements des familles. Vieille rengaine. Il est insupportable de recevoir des remerciements de parents effondrés alors que l'équipe peut se sentir comme incapable d'avoir permis la réanimation d'un enfant. Il s'agit de reconnaître que la mort a été la plus forte. Mais comme cela est difficile quand on s'est battu, qu'on a massé, injecté de l'adrénaline, surveillé avec fébrilité les constantes qui chutent. Alors, quand on vient vous dire merci. Et pourtant, combien il est important de pouvoir aussi accueillir ces mots si simples et si profonds. Merci pour ce que vous avez fait, mais aussi merci pour avoir été là, tout le temps, jusqu'au bout. Et même après, dans la salle de recueillement, à l'intérieur même du service. Pièce à deux portes, une ouvrant sur le couloir du service, l'autre donnant sur le palier, à côté des ascenseurs, et permettant aux familles, appelées en hâte, de dire un dernier adieu à l'enfant, entourant les parents, sans avoir à pénétrer dans la ruche bourdonnante des soins qui continuent, inlassablement, pour d'autres enfants qui, eux, auront la chance de vivre. Permettre à cette infirmière en pleurs de dire elle-même que ces remerciements, si durs à entendre, étaient en fait des remerciements pour l'être humain qu'elle avait été tout au long de cette infinie journée de dimanche. Une infirmière aux gestes précis et techniques, bien sûr. Ils l'ont regardé soigner sans repos leur enfant, devançant les demandes du médecin, trouvant immédiatement la petite veine, surveillant son scope et posant sans trembler les différents tuyaux des poches de traitement. Mais aussi une toute jeune femme, aux paroles mesurées, au silence plein d'empathie. Et aussi, ils l'ont bien vu d'une grande émotion, les yeux liquides qui ne se dérobent pas, une main posée sans hésitation sur l'épaule. Tu vois, Marine, ils sont très importants ces remerciements. Importants pour eux qui n'oublieront jamais que des hommes, des femmes, se sont battus pour sauver leur enfant et qu'ensuite, ils ont permis que la mort, inéluctable, soit entourée d'un berceau d'humanité. Alors oui, merci à toi et merci de partager avec nous tous cette réflexion. Bien sûr, contrairement aux autres heures de pause, chacun n'a pas pu ou voulu s'exprimer. Mais grâce à toi, nous avons reconnu en nous chacune de tes paroles, chacun de tes doutes, chacun de tes pleurs et nous avons pu, dans un silence laissant place à quelques mots, partager l'indicible. En sortant de cette heure-là, ce lundi-là, nous étions une équipe plus soudée encore. Alors, Il m'arrive aussi, depuis 10 ans que je fais ce travail, de recueillir les cauchemars de Réa. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait, ce qui est intéressant, il ne s'agit absolument pas, évidemment, de faire le moindre travail associatif et de renvoyer quoi que ce soit aux rêveurs, mais c'est juste de repérer l'invariant des thèmes de ces cauchemars. Pouvoir les exprimer, ça a une fonction de libération et de partage. C'est une fonction de réassurance. Alors, en fait, maintenant, je me suis aperçue qu'ils se racontaient les cauchemars entre eux, vous n'avez pas besoin de moi, et qu'ils rigolaient bien, en fait. Donc, voilà. Alors, c'est la récurrence des thèmes du fait de l'effraction traumatique de certaines situations qui est absolument frappant. C'est la frontière floue entre l'animé et l'inanimé dont tu parlais tout à l'heure, Benoît. C'est évidemment l'inquiétante étrangeté. Ça, vous connaissez, c'est une chambre de réanimation. Alors, j'ai choisi mannequin de simulation. On est en train de le perdre. On est vraiment là dans l'inquiétante étrangeté. Une image que vous reconnaissez de Matrix. Je vais vous lire un cauchemar. Alors, les cauchemars des soignants, je leur demande de me les raconter. Et puis, s'ils le souhaitent, de me les envoyer par mail. Et je leur demande l'autorisation de les lire. Ils sont bien sûr totalement anonymes, puisqu'il n'y a même pas leur prénom. Mais voilà. Donc, ils m'envoient leur cauchemar par mail. Et voilà un exemple de cauchemar que j'ai choisi parmi une trentaine d'autres. C'est une infirmière. Il y a un cauchemar que je n'oublierai jamais. Je suis dans une chambre et sur la table de réanimation, à la place d'un bébé, il y a une araignée géante avec un corps énorme et des pattes très grandes. Nous n'arrivons pas à la maintenir. Elle est attachée par des menottes. Elle a des fils partout. C'était la panique et le chaos dans la chambre, avec du matériel partout et des alarmes dans tous les sens, car l'araignée tripotait tout avec ses pattes. Entre parenthèses, pour alimenter vos réflexions. Alors, exprimer les choses par écrit, en rédigeant des scénarios des cauchemars, en écrivant le récit d'une journée difficile, ou bien en dessinant un temps très émouvant, c'est conserver l'intensité des moments vécus, mais en les détoxifiant, en leur ôtant l'effroi. Alors, c'est toujours mieux dit par les poètes, donc je vais citer Fernando Pessoa. Je crois qu'exprimer une chose, c'est lui conserver sa force et lui ôter l'épouvante. Alors raconter, verbalement, écrire, dessiner. Alors ça, c'est le dessin d'une infirmière qui s'appelle Sophie, qui s'est dessinée en souvenir d'un moment particulièrement émouvant, la mort de l'enfant dans ses bras. Donc vous voyez l'infirmière et une collègue ou un médecin, je ne me rappelle plus, qui est debout et qui regarde la scène d'une forme de mater dolorosa. Alors, en fait, si on veut aller un peu plus loin, dans ce travail, on essaye d'analyser les pratiques et on fait des recherches sur des thèmes plus spécifiques. On a travaillé pendant une année, par exemple, sur l'annonce et les entretiens familiaux. On a repris chaque lundi un entretien familial qui avait été difficile, complexe, la semaine d'avant ou les 15 jours avant. On le reprenait avec les soignants qui étaient présents lors de cette annonce aux familles. Donc il y avait le médecin qui a fait l'annonce, en général l'infirmière, parfois dans le meilleur des cas l'aide-soignante, mais c'était rare. Et on s'est aperçu au cours de ce travail-là que le rôle du médecin, on le sait bien, hein, est d'une délicatesse infinie. C'est quelque chose de... Chaque mot est pesé, enfin l'attention est immense, il a préparé ce qu'il avait à dire. Quand l'annonce est faite, il est assez fatigué et c'est un peu difficile d'être en empathie, lui, avec les parents. Par contre, l'infirmier ou l'infirmière qui est présent peut prendre la suite. Le médecin peut lui passer la parole et à ce moment-là, l'infirmière peut parler de la prise en charge de la douleur, de l'environnement du bébé et peut aussi demander aux parents ce qu'ils pensent. Elle peut repérer quelque chose qui a été complexe dans le discours du médecin et poser quelques questions. Voilà, on a travaillé un petit peu là-dessus, puis on s'est aperçu effectivement que c'est le temps des paroles des parents qui étaient complètement squeezés dans nos entretiens. Donc c'est pour ça qu'on a un petit peu travaillé là-dessus. On s'est appuyé sur plusieurs articles, de John Randall Curtis à Seattle aux États-Unis, où il s'affaire des questionnaires sur des centaines de familles. Et Curtis travaille en réanimation adulte et donc il a fait une enquête auprès de centaines de familles pour savoir le degré de satisfaction après un entretien familial, d'annonce de mort ou d'annonce de mort prochaine. Et il s'est aperçu qu'en fait, le taux de satisfaction des familles était corrélé uniquement à leur temps de parole. C'est-à-dire que plus ils avaient parlé, plus ils étaient satisfaits. Ça n'était pas lié au charisme éventuel du médecin, ni du temps de l'annonce du médecin, mais de leur temps de parole à eux. Donc, fort de ces textes, on a essayé d'améliorer ça. Et maintenant, nos entretiens familiaux durent beaucoup plus. Ou, si ce n'est pas possible sur le moment, parce qu'il y a une forme souvent de sidération des parents, une proposition de reprendre cet entretien avec eux, soit à leur rythme, soit dans un quart d'heure s'ils le souhaitent, soit dans quelques heures, soit le lendemain. Donc, on a un peu travaillé là-dessus. Bien sûr, une autre partie de mon travail, c'est animer des réunions sur situations douloureuses, mais je crois que l'heure de pause, là, vous l'a montré, ça tombait un lundi, donc, mais si, quand ça tombe un vendredi, bien sûr, on est amené à reprendre des situations qui ont eu lieu entre le lundi et le vendredi. Alors, on essaye de travailler aussi sur le travail réflexif, c'est-à-dire réfléchir sur nos pratiques. Et on fait des présentations communes, médecin, psychologue ou infirmière, psychologue, psychologue avec un S, hein, puisqu'on est trois psychologues dans le service, lors de congrès. C'est un travail de mise en pensée, c'est un essai de théorisation, c'est une dynamique intellectuelle. Par exemple, actuellement, on travaille avec un sémioticien et puis on réalise certains films, des films. Alors, peut-être pour vous résumer un peu ce que j'ai fait ces dernières années, en collaboration avec Fabrice Lesage, qui est le PH responsable de la réanimation à Necker. On a participé à des interventions à la demande de la SRLF ou de la RIP avec Michel Dunia ou du CEDITEC, qui est une association qui travaille de façon anthropologique sur la médecine. En 2011, donc, on a travaillé sur l'annonce des mauvaises nouvelles. En 2013, on a présenté en Avignon Rituel de soins, machines et cauchemars en réanimation pédiatrique, où, parce qu'on travaille à partir de notre équipe, hein, donc on fait passer des entretiens, des questionnaires, on discute avec les soignants. Et par exemple, par rapport au rituel de soins, on a été très étonnés du nombre de choses étonnantes qu'il y avait dans le service. Bon, classiquement, une PH senior qui a beaucoup de bouteilles, mais toujours le même pendentif quand elle vient travailler en réanimation parce que ça protège. Un infirmier met les ustensiles dans un ordre absolument immuable sur son plateau alors qu'il sait parfaitement que ça n'a pas vraiment d'importance, mais il faut que ça soit comme ça. Si c'est pas comme ça, il prend le temps de le changer. Une autre soignante qui, chaque fois qu'elle entrait dans une chambre, sachant que l'enfant allait très mal, se chantait dans la tête une rituelle pirouette cacahuète, de protection. Petit rituel de protection, ça pouvait faire en sorte que l'enfant ne meure pas. Une autre soignante me disait qu'elle arrivait en voiture et que s'il n'y avait pas de feu rouge, parce qu'elle arrivait tôt le matin, s'il y avait des feux verts, c'était très bon signe et qu'il n'y aurait pas de mort ce jour-là. Voilà, et bien sûr, avec tout le, elle raconte ça en rigolant avec tout le recul, n'empêche que c'est ce qu'elle vit tous les jours, enfin, chaque fois qu'elle vient. Donc on a été assez étonnés de tout ça, et on s'est même aperçu au décours de ce petit questionnaire, cette petite enquête auprès des soignants, de choses qu'on ignorait, Fabrice Lesage et moi, et qui nous ont drôlement étonnés, à savoir qu'une des chambres de la réanimation avait été désenvoûtée quand même. Une partie de l'équipe a fait venir un désenvoûteur, parce que dans la chambre, je ne me rappelle plus le numéro, il y avait eu une succession, assez étonnante effectivement, de décès. Et donc ça a été jusqu'au point de faire venir quelqu'un. Ça n'a pas été officiel, puisqu'on l'a su que 2 ans après, le patron n'était bien sûr pas au courant, mais ça a été fait quand même avec des médecins du service, hein, parce que c'était un dimanche, un samedi, un jour où il n'y avait pas trop de cadres, ça a été fait avec des médecins du service, et un désenvoûteur qui est rentré dans le service.
Donc, d'origine normande, peut-être. Hein, d'origine normande, c'est ça.
Voilà, un sorcier normand est venu nous voir. En 2015, on est intervenu, encore une fois à la demande de Michel Dunia, à Cerisy, sur l'imagerie médicale. On avait intitulé notre... Parce que le thème de ces journées, c'était le bébé numérique, un truc comme ça. Non, bébé sapiens. Alors nous, on a pensé parler de l'imagerie médicale et du fait que toutes nos décisions s'appuyaient sur l'imagerie. Et on a voulu un petit peu comprendre ce qui se passait et on a fait des petits pièges. On a sorti des images, soit du service, soit dans la littérature, ça c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Fabrice Lesage, demandant aux médecins de jouer le jeu et de donner une interprétation actuelle et un diagnostic futur sur une imagerie cérébrale. Et donc on avait fait des pièges, bien sûr, on a montré une image apparemment très banal, dont on savait la fin, qui était catastrophique, et à contrario, une image assez inquiétante avec... Moi, je voyais du blanc partout. Et puis, en fait, cet enfant est en CP. Voilà. Donc, et ça, on avait, c'était chez nous, donc on avait le dossier. Et donc, le jeu, c'était évidemment de pas dire la suite de l'histoire et de présenter uniquement l'imagerie. Alors, là, c'est dommage, Fabrice l'aurait expliqué mieux que moi, parce que je ne suis pas médecin. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'en jouant le jeu, bien sûr, il savait que c'était uniquement un jeu. Bien sûr, tout le monde est tombé dans le panneau, l'imagerie impressionnante, cet enfant va mourir, l'imagerie rassurante, non, maintenant, il n'y a pas de problème, etc. Et puis après, on leur demandait, mais on a été voir ce qui s'était passé dans le dossier. Et en fait, dans le dossier médical, bien sûr que ce n'est pas comme ça que ça se passe, bien sûr qu'il y a un temps de réflexion immense, bien sûr qu'on suit l'évolution des choses, bien sûr que des neurologues viennent et... nous indique des choses beaucoup plus précises. Bien sûr qu'on prend le temps de refaire cette imagerie à 15 jours, à un mois, etc. Vous connaissez fort bien notre façon de travailler. Ce qui fait que, dans la réalité, l'enfant qui était catastrophique, évidemment, n'a pas été arrêté. Hein. Le traitement n'a pas été arrêté. Donc, il y a tout un mécanisme de régulation qui se met en place. N'empêche que, c'était ça. Quand on a présenté ce truc à l'équipe, ils étaient quand même extrêmement étonnés de leur réponse hein, et du fait qu'effectivement, il y a une forme de croyance. Hein, enfin, les anthropologues pourraient nous parler de ça. Qu'est-ce que c'est que ça on a nos gris-gris aussi, mais heureusement, on a des mécanismes qui... de contrôle de nos projections, de nos fantasmes, et la clinique est absolument ce qui nous mène, en fait. C'est pas l'imagerie, c'est la clinique qui vient dire les choses et arrêter les projections sur l'imagerie. Alors en 2016, l'année dernière, on a fait un film sur l'éthique au quotidien. Vous trouverez dans Psynem un dossier sur l'éthique. Et dans ce film... on a recueilli les témoignages transdisciplinaires autour de l'hospitalisation d'une enfant et d'une décision éthique qui a dû être réalisée en urgence, la nuit, alors que le médecin de garde, heureusement, était le médecin référent de l'enfant par hasard. D'habitude, vous savez comment ça fonctionne, on prévoit les staffs éthiques, il y a beaucoup de monde qui est là, on réfléchit, on prend une décision ou pas, et puis on refait un staff éthique à distance, etc. Et puis quelquefois, pour des raisons, il y a toujours de bonnes raisons, c'était une enfant chronique qui avait été staffée régulièrement, mais pas vraiment staff éthique, parce que cet enfant était extrêmement attachante, extrêmement. Tout le monde l'adorait. Et donc, il n'y a pas eu vraiment de staff éthique, parce que juste, c'était pas pensable. Hein, alors qu'elle était très grave, hein, c'était une enfant très grave, qui avait une pathologie dont on savait qu'à terme, on ne savait pas quand, mais dans les mois ou les années futures, elle en décéderait. Mais c'était une enfant attractive. Et bon, voilà, ça c'est le contexte. Donc, la nuit arrive, et cet enfant fait un premier arrêt, récupéré... un deuxième arrêt, récupérer, bref, il faut arrêter. Donc comment on fait? C'est la nuit. Donc le médecin, qui était le médecin référent, donc, dans la chambre, ou dans le couloir, je ne sais pas, fait un mini-staff avec tous les gens qui étaient là, qui connaissaient l'enfant, c'est-à-dire l'aide-soignante, l'infirmière, la collègue d'infirmière, la stagiaire. Et là, ils prennent une décision éthique. Les parents habitaient loin, oui, bien sûr, étaient appelés, mais n'ont pas pu, arriver à temps, on savait que ce n'était pas possible. Donc les choses se sont passées entièrement dans l'équipe la nuit. Les parents sont arrivés après et ça s'est bien passé avec les parents qui ont compris. Ils avaient d'autres enfants, ils habitaient loin, donc on a fait ce qu'on a pu. Et vous imaginez bien ce qui arrive le lendemain matin quand l'équipe arrive. Affreux. Tout le monde en pleure, le service en pleure. Et une forme d'incompréhension sur ce qui s'est passé la nuit. Donc dans ces cas-là, il faut faire... une réunion, il n'y a pas d'autre solution. Donc la cadre décide de faire une réunion le vendredi suivant. Et cette réunion a été assez extraordinaire. Il y avait énormément de monde. Bien sûr, les gens des autres équipes sont revenus, hein, parce que c'était tellement fort ce qui s'était passé. Elles se communiquent par les réseaux sociaux. Donc tout le service a été au courant la nuit et le lendemain immédiatement. Donc il y avait énormément de monde à cette réunion du vendredi. Elle est décédée dans la nuit du mardi au mercredi. Et donc, voilà, il y a cette réunion qui se passe d'une façon assez extraordinaire, très émouvante, très forte. Et on s'est dit, une fois de plus, avec la cadre du service, ah, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu la caméra. On était entre nous, on aurait vraiment pu filmer cette, cette réunion. Et en fait, je me suis dit après, pendant le week-end, je me suis dit, mais bon, oui, c'est vrai, il n'y avait pas la caméra, mais on n'a qu'à quand même faire un film. Et j'ai proposé à toute l'équipe, j'ai mis plusieurs affiches dans le service, est-ce que vous voulez venir parler de Sarah ? C'est cette petite fille qui est décédée. Bien sûr, c'est un autre nom, hein. C'est Sarah. Donc, en fait, il y a 17 personnes qui ont accepté de venir parler devant la caméra. Et ça, c'était aussi assez étonnant. Et ce film qui a été réalisé et monté par Xavier Jeudon, qui est donc le cinéaste de Psinem, donc qui est embauché par l'équipe de Bernard Gols. Donc je suis très reconnaissante à mon patron Bernard Gols d'autoriser ce travail-là. Et ce film a été présenté à Tounecker, en fait, au mois de mai et juin dernier. Et ça a intéressé les autres services. Alors, je vais vous montrer juste un petit extrait de ce film. Donc, en fait, c'est juste les témoignages de la cadre qui s'appelle Françoise, la cadre supérieure qui s'appelle Françoise Aigrot, de deux infirmières qui s'appellent Marine Dosso et Marine Bernard, et de deux praticiens hospitaliers, le PH de référent de l'enfant Laurent Dupic et l'autre PH responsable de la réanimation Fabrice Lesage. Et le chef de service, Sylvain Renaulot. Si je vous dis les noms, c'est parce qu'il n'y a sur l'extrait que je vous montre que le nom du patron. Alors, ce n'est pas parce que les autres, je n'ai pas mis leur nom, c'est que comme ils ont été intervenus dans le film avant, on ne répète pas leur nom à chaque fois. Mais ça me paraissait important de les nommer ici. Alors voilà, ça c'est le film Sarah, une narrativité collégiale. Parce qu'en fait, dans le film, ce qui se passe lors de cette réunion, après le décès de l'enfant, est tout à fait capital. Ainsi que le film qui a été fait, dont les soignants ont pu dire que le film avait aussi fait partie du travail et avait été une forme de psychothérapie. Ça a été dit comme ça.
Au moment où la fin de vie arrive, il y a un deuil qui va se mettre en place pour les équipes, et ce deuil, il faut qu'il soit accompagné, il faut que les choses soient dites et explicitées, et ça ne peut pas se faire à la sauvette à la fin d'une journée de travail ou au début d'une journée de travail. Il faut forcément qu'on s'assie et qu'on exprime les choses, qu'on verbalise les choses. Donc effectivement, je propose très régulièrement de faire des débriefings où tout le monde s'assoit, depuis l'aide-soignante jusqu'au chef de service.
Et chacun s'exprimait justement par rapport à ça, au choix qu'ils avaient pris. Et on a été tous d'accord avec ce qu'ils avaient choisi. Et on a tous été fiers d'eux aussi, de comment la nuit s'est passée. Et, voilà, ça, je pense que ça a soudé aussi l'équipe.
Ça a été quand même un moment très difficile pour tout le monde, et le fait de pouvoir communiquer comme ça, parler, s'exprimer, je pense que ça nous a tous beaucoup aidés.
Le staff qu'on a eu après pour débriefer l'histoire de Sarah, sa plus grande vertu, ça a été de dire aux soignants qui ont pris cette décision, vous l'avez pris, vous, quelques-uns, mais on est tous derrière vous et solidaires avec la décision que vous avez prise. Dans les mêmes circonstances, on aurait pris la même. Et donc, c'est redistribuer le poids qu'ils ont pris sur leurs épaules de quelques-uns, le redistribuer sur l'équipe et dire on est parfaitement solidaire de cette décision.
Les retours et les allers-retours de manifestations d'attention entre les équipes médicales et les équipes soignantes étaient probablement moins souvent, et se font moins souvent. Et en tout cas, moi, en 12 ans ou 13 ans là, de pratique, j'avais jamais eu ce retour-là. Jamais. Et donc très touché de ça.
La deuxième vertu, à mon sens, de ce staff, ça a été de redonner du sens. Sarah a vécu avec nous pendant des mois et des mois, et on a été son cadre de vie, et c'était important.
On n'avait jamais vécu ça avec Fabrice. C'est le premier staff éthique post-mortem. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans ? On peut mettre à un moment donné un espace de communication qui permet à tout le monde de s'exprimer, d'exprimer des choses qui permettent à tous les gens qui n'avaient pas vécu le décès de pouvoir comprendre ce qui s'est passé. donc d'avoir des éléments de réflexion médicale, de réfléchir sur nos pratiques, parce qu'il y a eu un moment extrêmement juste sur pourquoi est-ce qu'on est arrivé là, comment on y est arrivé, comment on était, par la sommation de ces prises en charge successives de chacun des organes, arrivé à une situation qui nous avait peut-être emprisonnés.
On savait tous un jour qu'avec sa maladie, elle décéderait forcément. Donc on était conscients de ça tous, mais pas que ça soit aussi brutal et aussi rapide. Parce que du coup, nous, on n'était pas préparés. Parce qu'on prépare souvent les familles, mais c'est vrai que pour elle, si on avait été préparés, on l'aurait mieux accepté qu'elle n'a pas eu le temps. Voilà, elle ne nous a pas préparés.
Dans notre travail en réanimation, tous les matins, on se pose la question de est-ce qu'il faut continuer la ventilation mécanique? Est-ce qu'il faut toujours laisser un cathéter? Est-ce qu'il faut laisser les antibiotiques? Je pense que aussi tous les matins et plusieurs fois par jour, il faut se poser la question de est-ce que je fais bien ou le mieux qu'on peut faire pour cet enfant? Et pour moi, l'éthique au quotidien, c'est ça. Se poser la question de est-ce que dans sa globalité, pour cet enfant, avec sa famille, je fais le mieux que je peux.
Alors, vous avez compris que cette réunion que Laurent Dupic, donc le médecin référent, nomme staff éthique post-mortem, a été tout à fait importante. Parce qu'on peut imaginer que s'il n'avait pas eu lieu cette réunion, qu'est-ce qui serait passé? Eh bien, un clivage entre l'équipe de nuit, qui a pris une décision, et l'équipe de jour, et qui arrive très secouée. Donc, c'était absolument capital. Alors, quelques éléments théoriques. D'abord, je vous l'ai dit au début, pour moi, il y a une liberté psychique et je n'ai pas de culpabilité parce que je ne prends pas de temps aux familles. Donc, voilà, ça c'est très important. Qu'est-ce qui se passe, en fait, dans ces réunions? Dans l'heure de pause, dans les staffs, il n'y a pas que l'heure de pause, il y a aussi les staffs médico-psychosociaux qui ont lieu deux fois par semaine, qui sont animés par mes collègues psychologues Olga Faustini et Céline Rossignolo, et qui sont absolument capitaux. Bref, donc, qu'est-ce qui se passe? Un partage émotionnel, une transdisciplinarité émotionnelle, à la suite de laquelle il y a un travail de copensée qui transforme le matériel archaïque et qui le secondarise. Bien sûr, la capacité négative, éviter les identifications projectives pour permettre l'écoute de l'autre, on connaît ça. L'importance de la narrativité, d'autant plus que le quotidien de la mort implique la nécessité d'en faire récit, c'est Roland Gori qui dit ça. Et puis, je voudrais aussi vous proposer cette fonction d'altérance. Je cherchais un mot pour essayer d'expliquer ce qu'on pouvait vivre, ce que les soignants pouvaient vivre dans un service tel que le nôtre, avec donc la multiplicité des staffs éthiques, des décisions éthiques et des décès. Alors, toutes ces expériences-là nous atteignent et nous transforment en permanence, d'où la fonction d'altérance, c'est-à-dire la capacité de nous modifier, de nous changer, de nous transformer que possèdent ces situations d'accompagnement lors des décisions éthiques. Être altéré, c'est aussi être assoiffé, et assoiffé de sens. Donc altérance, c'est un néologisme que je propose pour tenter de définir un état psychique très particulier que connaissent bien les soignants à certains moments d'intense confrontation émotionnelle, sans pouvoir réellement le nommer. La fonction d'altérance représente cette capacité que possède l'autre, du fait de son questionnement existentiel, de sa vulnérabilité et de son appel, de modifier en chacun de nous notre rapport au monde, nous altérant de sens et nous obligeant à une transformation psychique parfois coûteuse, mais toujours maturative. Alors, respecter les positions théoriques de chacun, avec leur temporalité respective, tout en créant des espaces communs d'échange et de réflexion, c'est ce qu'on tente de faire. Le travail sur l'annonce, c'est d'abord et avant tout un travail sur l'annonceur, c'est Luc Gourand, échographiste, qui dit ça, et Lint ajoute, car la personnalité du médecin détermine pratiquement seule son choix de la réponse. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de demander aux soignants de faire une analyse personnelle, je ne parle pas du tout de ça. Il ne s'agit pas d'interpréter, mais simplement, et c'est assez complexe, de permettre aux soignants, à chacun de nous, de prendre conscience de nos contre-attitudes. Alors, Mais pour conclure, je voudrais conclure sur la sublimation. Parce que finalement, tout ça, c'est aussi une façon de sublimer la difficulté du travail, d'en faire quelque chose de présentable, de communicable aux autres, d'intellectuellement satisfaisant. Et je voudrais conclure sur ce que dit Christophe Dejour, que vous connaissez, psychiatre, psychanalyste, professeur au CNAM. Le plaisir se déduit du fait que, me confrontant à l'expérience, j'ai découvert en moi des ressources insoupçonnées et des registres de sensibilité qui, auparavant, ne m'étaient pas ouverts. C'est moi qui souligne ressources insoupçonnées. C'est ce qui se passe dans ces services. Alors, reprenant encore une fois les termes de Christophe Dejour à propos de la psychodynamique du travail, je pense que l'ensemble du travail auprès des soignants consiste à soutenir et à favoriser les capacités de sublimation. La sublimation comme stratégie défensive, constructive, dans le sens où elle soutient la santé mentale de chacun et ouvre sur le plaisir. Et je voudrais terminer ma présentation par le plaisir. Une peintre a décoré toutes les chambres et tous les couloirs du service avec le soutien enthousiaste de toute l'équipe. Ceux qui ont lu 20 minutes ce matin, il y a un article justement par hasard sur elle, là-dedans. Je vais vous montrer. Voilà, là. Et je vous montre, voilà, la peintre qui a décoré le service. Toute l'équipe qui a participé à une certaine fresque, il y avait une girafe et avec des motifs, donc une partie de l'équipe a pu dessiner et s'est prise en selfie. Et voilà, je vous remercie de votre attention.